Bonjour à toutes et à tous. Donc, je remercie Patrick pour son invitation, sa présentation, qui donne un bon aperçu effectivement du travail de recherche que j'ai effectué donc, dans un groupe qu'il a présenté, donc, qui travaille sur l'école primaire. Je crois que Patrick a dit qu'on avait défriché les problèmes de professionnalité dans le second degré. On travaille sur l'école primaire. Donc, en deux, trois mots, je dirais qui je suis. Donc, je suis maintenant maître de conférence en sciences de l'éducation à l'UFM de Champagne-Ardenne, à Reims. Et j'ai longtemps été professeur de géographie, histoire-géographie, en collège. Alors, ces éléments-là expliquent en partie mon choix d'entrée disciplinaire dans le questionnement qu'on peut avoir sur la professionnalité des enseignants. Ma thèse, certes, porte sur les enseignants du premier degré, mais je vais essayer aujourd'hui de mettre en question cette professionnalité de façon à ce que ça puisse apporter des éclairages à toutes ces situations où des enseignants doivent enseigner plusieurs disciplines, si je peux résumer comme cela. Donc, certes, je vais beaucoup m'appuyer sur le premier degré, mais je pense que vous conviendrez aisément que devoir enseigner plusieurs disciplines n'est pas le propre de l'enseignant du premier degré. Vous retrouvez cette situation dans le second degré où il y a des profs d'histoire et géographie, des profs de physique et chimie, etc. Donc, j'essaierai d'avoir un petit peu ces perspectives qui permettent d'élargir un petit peu cette réflexion. Alors, le déroulement de mon intervention, donc je vous ai fait photocopier le plan. Donc, je débuterai par un peu une mise en contexte de la présentation. Dans un second point, je préciserai un peu mon point de vue, la façon dont ces recherches sont menées autour d'une tentative d'articuler en quelque sorte trois, je ne vais pas dire cadre théorique, mais trois perspectives pour comprendre les pratiques des enseignants. Un troisième point me permettra d'aborder la méthodologie de notre recherche, mais aussi une méthodologie qui, me semble-t-il, peut servir lorsqu'on a à réfléchir sur des dispositifs de formation. Le quatrième temps, ce temps sera construit à partir d'un certain nombre d'exemples tirés de situations de classe sur lesquelles j'ai pu travailler. Et c'est pour ce quatrième temps que vous avez un certain nombre d'extraits, d'entretiens, d'autoconfrontations, de scripts, de séances de classe. Enfin, quelques éléments de conclusion sur ces pratiques d'enseignement, sur ce qu'elles nous disent du métier d'enseignant, sur les difficultés à exercer aujourd'hui ce métier. Voilà. Donc, à la demande de Patrick, cette intervention est calibrée pour environ 1 heure, 1h30. Je dirais que le nombre aussi que vous êtes permettra, je pense, que nous ayons des échanges, des discussions, puisque c'est bien dans cette perspective-là que je suis venu ce matin. Voilà, donc les enseignants de l'école primaire et les savoirs, une professionnalité en question. Alors, tout d'abord, quelques éléments de contexte qui vont permettre de mieux voir dans quelle perspective nous inscrivons notre travail. Alors, ces éléments de contexte, je commencerai par un point très général, c'est que vous avez un ensemble de transformations, de mutations qui modifient aujourd'hui le cadre d'exercice des enseignants. Alors, ces mutations des contextes professionnels, on peut en distinguer quatre qui vont mettre en tension l'exercice professionnel des enseignants, qui mettent en tension aussi, je dirais, notre école. Alors, quelles sont ces quatre mutations? D'abord, des transformations économiques. Je ne vais pas faire long sur ce point, mais je rappellerai qu'on vit ce qu'on appelle le post-fordisme. On est dans un temps de globalisation. Bref, on a de la part des dirigeants économiques tout un ensemble de demandes adressées à l'école et aux enseignants qui font qu'on va demander d'adapter à ce nouveau contexte de compétition économique. On a également des transformations sociales. L'exclusion sociale, les inégalités croissantes, des inquiétudes dans les familles face à l'avenir professionnel et social de leurs enfants, qui pèsent aussi sur l'école. Enfin, des transformations culturelles. Je pense qu'on est dans ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui le temps de l'individu. Il y a une individualisation accrue, etc. Et tout cela, me semble-t-il, pèse là encore sur l'école, se traduit par une demande croissante d'individualisation des parcours, des méthodes d'enseignement, etc. Dernier élément, l'évolution, que vous connaissez tous et toutes, des publics scolaires. Alors, par évolution des publics scolaires, j'entendrai essentiellement une hétérogénéité croissante. C'est-à-dire que les enseignants, quel que soit le niveau auquel ils exercent, sont confrontés à ce qu'on a pu appeler des nouveaux publics, avec hétérogénéité de niveau, de socialisation, d'aspiration. Bref, autant d'éléments, comme je le disais, qui sont source, me semble-t-il, de tensions par rapport à l'école. Deuxième élément, je crois, qu'il me semble important de prendre en compte, ce sont un certain nombre de critiques, des interrogations sur l'école primaire et ses enseignants. Alors, ces interrogations, ces critiques, on peut les organiser autour de deux grandes périodes. Une première période que l'on peut distinguer, les décennies 60-70, qui marque un petit peu le début des critiques ou des interrogations sur l'école, sur une mise en question de ce que Vincent Lang a appelé une professionnalité ancienne. Comme si ce que les enseignants avaient toujours fait, quand je dis toujours fait, je dirais sur la période 1870 jusqu'aux années 1960, n'étaient plus en mesure de permettre de répondre aux multiples attentes qui pèsent sur l'école. En France comme ailleurs dans le monde, on constate que dans cette période des années 1960-1970, alors quand je dis ailleurs dans le monde, dans les pays de l'OCDE, on a tout un ensemble de rapports, de textes dans lesquels on peut lire des critiques très dures qui sont formulées à l'encontre de l'école et du système d'éducation. Alors on peut voir un petit peu comme marqueur de ces interrogations, l'émergence, je dirais, dans le débat social, de la thématique de l'échec scolaire, qui se développe à ce moment-là, marqueur, révélateur des interrogations qui portent sur l'école, sur ses enseignants, et je dirais sur leur capacité à faire réussir les élèves. Alors, on a beaucoup d'interrogations sur quel savoir enseigner, quelle méthode. C'est aussi un temps d'expérimentation. Je signalerai, par exemple, pour l'école primaire, que c'est le temps de ce qu'on a appelé, parfois fort décrié aussi, la pédagogie de l'éveil. Donc, on expérimente, on cherche. Donc, il y a beaucoup de réflexions autour de l'école et des savoirs qu'il faut enseigner. Je pense que c'est meilleur comme ça. Deuxième moment dans ces interrogations sur l'école primaire, les années 1990-2000. Alors, j'ai intitulé cette deuxième période « L'école primaire, un maillon faible » ou « maillon faible du système éducatif français ». C'est-à-dire qu'on va voir tout un ensemble de rapports qui vont progressivement construire, je pense, dans l'opinion, cette idée selon laquelle, finalement, l'échec scolaire, les difficultés des élèves, ça viendrait en quelque part de l'école primaire, qui ne permettrait plus de faire apprendre, si je puis dire, correctement les élèves. Alors, trois éléments, là encore, qui sont en quelque sorte des balises pour étayer mon propos. Premier élément, 1997, un rapport Ferrier, donc améliorer l'efficacité de l'école primaire. Alors, voilà, on peut estimer, 1997, 25% d'une classe d'âge qui a des difficultés au moment de l'entrée au collège. Et on va voir que, si on fait un parcours chronologique, ce pourcentage pratiquement va rester quasiment le même au fur et à mesure où l'on avancera dans le temps. Autre document sur lequel on peut s'appuyer, c'est le rapport du Haut Conseil de l'école de 2007 sur l'école primaire. Donc chaque année, 4 écoliers sur 10, soit environ 300 000 élèves, sortent du CM2 avec de graves lacunes. Bon. Et puis on peut encore trouver dans le rapport de 2010 qui concerne cette fois le collège. Donc là, c'est dernier point. Il y a deux pages. Le collège hérite des déficiences de l'école primaire. Donc on a là tout un ensemble d'éléments qui montrent bien que l'école primaire, son fonctionnement, ses enseignants sont soumis à, je dirais, à critique, sont soumis également à interrogation. Alors, je dirais, par rapport à toutes ces critiques, par rapport à toutes ces interrogations, on a comme, en quelque sorte, des réponses que cherche l'institution à ces problèmes, un ensemble de réformes. Alors, dans le champ de la formation des enseignants, on voit s'imposer ce qu'on appelle, si on se réfère par exemple à Vincent Lang, la rhétorique de la professionnalisation. C'est-à-dire qu'en professionnalisant les enseignants, on espère que l'école permettra d'avoir une réussite plus importante aux élèves qu'elle accueille. Alors, cette rhétorique de la professionnalisation, là aussi, on peut en donner quelques repères. Donc, je vous ai mis comme borne 1989, c'est le rapport Bancel qui va créer les IUFM. 2006, c'est le cahier des charges de la formation des maîtres en IUFM. Et dans ces textes, et ceux qui s'inscrivent dans cette période, on trouve ce qu'on pourrait appeler une intention de professionnalisation, c'est-à-dire un projet institutionnel, comme le dit Mokhtar Kadouri, un projet de professionnalisation qui porte une nouvelle professionnalité. C'est-à-dire que la professionnalité ancienne est jugée comme ne permettant plus d'atteindre les objectifs, et donc on met en avant une professionnalité nouvelle que je détaillerai pas ici, mais que le journaliste du Monde, Luc Seidel, a appelé le flexiprof, c'est-à-dire un enseignant en quelque sorte idéal aux yeux de l'institution. Alors, pour l'école primaire, qui serait un polyvalent expert, un polyvalent spécialiste, et tout cela serait gage d'efficacité. Je crois que derrière cette professionnalité nouvelle qui est mise en avant par l'institution, il y a cette idée qu'on aura des enseignants efficaces. Ça, c'est dans le champ de la formation. On assiste également à une redéfinition des objectifs assignés à l'école. Donc, deux exemples. Extrait l'un du socle commun de connaissances et de compétences 2006. Donc la scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens de réussir, etc. Et puis, deuxième exemple tiré des programmes de 2008, l'école primaire doit transmettre et faire acquérir à chaque élève les connaissances et les compétences fondamentales qui seront nécessaires à la poursuite de sa scolarité, au collège. Alors, je dirais que ces textes marquent l'entrée en force de l'approche par compétences à l'école primaire. Donc là encore, source de tension hein, entre une forme scolaire, des habitudes professionnelles qui étaient plus sur l'idée de transmettre, si je puis dire, des savoirs que de construire des compétences. Alors, je dirais, et pourtant PISA, alors vous en avez, je pense, parlé hier, hein, quand on prend les résultats de ces grandes enquêtes internationales, hein, ben, cette inquiétude, cette interrogation sur l'école persiste. Hein, donc je vous ai mis un extrait du journal Le Monde, hein, l'école française, tout juste dans la moyenne des pays de l'OCDE. L'évolution du niveau des jeunes français montre que près d'un quart, 25% des élèves est à la traîne. Donc comme si, quoi que l'on fasse, hein, des réformes de la formation des maîtres, des réflexions sur les contenus, sur les méthodes, ben, entre guillemets, rien n'y faisait. Alors, de tous ces éléments, je dirais qu'on peut tirer un certain nombre de conséquences et tracer un certain nombre de perspectives de recherche qui ont été les nôtres. De ces interrogations quant aux difficultés scolaires des élèves, hein, j'ai tiré cette première question, celle des savoirs scolaires. Et il me semble que leur transmission, leur appropriation, mais aussi celle du rapport des enseignants aux savoirs disciplinaires, doivent être considérées comme des dimensions essentielles de leur professionnalité. Deuxième élément qui me semble important de prendre en compte, c'est que cette professionnalité qui est actuellement promue par l'institution renvoie, comme je l'ai dit rapidement, à une sorte d'idéal. Et elle est, à mon avis, en ce sens, pensée par le haut. C'est-à-dire qu'on pense la réflexion sur la professionnalité enseignante hein, par le haut. On pense ensuite la formation souvent dans une logique descendante. C'est-à-dire qu'on a cette professionnalité idéale et on aimerait que les enseignants l'adoptent. Et il me semble qu'il serait peut-être important de mettre à jour, et c'est en partie à quoi nous consacrons dans le groupe notre travail, ce qu'on pourrait appeler une professionnalité réelle. C'est-à-dire questionner le travail quotidien des enseignants, les pratiques d'enseignement ordinaires, s'interroger aussi et essayer d'identifier les difficultés rencontrées pour en proposer une intelligibilité, pour en dégager des logiques d'action. C'est-à-dire construire une professionnalité. Alors j'ai parlé du haut pour le modèle, peut-être cette fois pourrions-nous employer l'expression d'une professionnalité pensée et construite par le bas. Alors, cela revient, dans la perspective de recherche qui est la nôtre, à soumettre hein, à la recherche la question de la polyvalence des enseignants, chercher à comprendre ce qui peut faire obstacle à l'entrée des élèves dans les apprentissages de savoirs scolaires disciplinaires. Alors, pour mener ces recherches hein, sur la polyvalence et pour tenter d'apporter un certain nombre d'éléments de compréhension, nous avons essayé dans le groupe, et puis j'ai retravaillé sur ces éléments-là, d'articuler trois perspectives, hein, j'insiste bien, pour décrire et comprendre les pratiques d'enseignement. Alors, ce n'est pas un ordre hiérarchique hein, que j'utilise maintenant hein, pour présenter ces trois perspectives. Donc, tout d'abord, mobiliser la didactique de la géographie. Alors, on peut aisément convenir hein, de la complexité des pratiques enseignantes, des multiples dimensions de cette pratique. Donc, dans le cadre de notre groupe de recherche, hein, nous avons fait un choix que nous assumons, qui est celui de privilégier une entrée par la dimension didactique des pratiques d'enseignement. Donc, choix qui nous conduit à mettre au cœur de notre réflexion le processus d'enseignement apprentissage. Alors, quelques mots rapides sur les recherches en didactique de la géographie pour l'école primaire, montrant qu'elles ont surtout et longtemps porté sur des pratiques d'enseignement déclarées, sur des observations de classe faites par des jurés ou des chercheurs, etc. Elles ont donc souvent mis, si je puis dire, l'enseignant, ce qu'il est, ce qu'il pense, ce qu'il décide, quelque peu de côté, en le considérant, si je puis dire, comme un enseignant générique. Autre élément d'apport de ces recherches, c'est un constat, alors qui a été fait, bon, certes en France, mais aussi dans d'autres contextes nationaux, constat selon lequel, dans le contexte de la polyvalence, les enseignants entretiennent un rapport ambigu avec les disciplines scolaires à enseigner. C'est-à-dire qu'on constate qu'ils hiérarchisent les disciplines. Par exemple, si l'on prend l'ensemble des disciplines que l'on doit enseigner à l'école primaire, on peut dégager rapidement trois groupes de disciplines, les mathématiques et le français, toujours enseignés avec des horaires qui répondent à ceux des prescriptions. Ensuite, on a un deuxième groupe de disciplines qui sont, parmi lesquelles figurent l'histoire, la géographie avec les sciences. Et puis, si je puis dire, un troisième groupe encore de disciplines dans lequel vous allez trouver l'enseignement musical, l'EPS, etc. Bref, autant d'éléments qui laissent à penser qu'il y a quelque chose de particulier dans le rapport des enseignants aux disciplines qu'on leur demande d'enseigner. Alors, ça, c'est la perspective didactique. Deuxième perspective que nous cherchons à prendre en compte, ce sont les apports de l'analyse du travail, donc qui se nourrissent de la psychologie du travail, de l'ergonomie, etc. Là aussi, mon propos n'est pas de présenter dans le détail ces cadres théoriques, mais de vous montrer comment on a pu mobiliser ces apports qui, me semble-t-il, nous permettent de prendre en compte la dimension subjective de la pratique professionnelle. C'est-à-dire que dans nos recherches, nous tentons de considérer l'enseignant, ce qu'il est et ce qu'il fait dans les situations de travail auxquelles il est confronté. Donc ça a une conséquence pour nous en termes de recherche, c'est que nous tentons d'analyser le travail de l'enseignant non pas en termes d'écart à une norme, ce qui s'est souvent et longtemps fait dans les recherches en didactique de la géographie, on prenait le travail prescrit et puis on essayait de mesurer les écarts, ce qui conduit souvent à tous ces jugements qui sont portés sur le travail, jugements négatifs. Donc si l'on adopte ces perspectives qui sont celles de l'analyse du travail, ben ce travail, on va l'analyser en termes plutôt de choix, de compromis, d'incertitude, comme l'explique Amig, de décision, etc. Autrement dit, nous allons essayer de comprendre le travail des enseignants comme une donnée complexe, des enseignants qui doivent construire au quotidien un ensemble de pratiques qui, pour eux, fait sens. Troisième élément, les apports de la sociologie de l'éducation. Alors, je rappellerai que les savoirs scolaires, par nature, sont des savoirs particuliers. Savoirs particuliers dans le sens où ce sont souvent des savoirs décontextualisés. Ce sont, comme l'a bien montré Bernard Lahir, des savoirs de nature scripturale. Bref, des savoirs qui supposent des modes de transmission et appropriation propres à ce monde spécifique qu'est l'école. Alors, dans ce cadre, on a un ensemble de travaux de recherche qui, partant par exemple des travaux de Bernstein, ont mis en avant les liens entre l'inégalité des élèves face aux spécificités des savoirs scolaires et à leur mode de transmission. Donc c'est dans ces perspectives ouvertes par Bernstein, des perspectives aussi qu'on retrouve au Québec dans le cadre des travaux du philosophe Fernand Dumont sur la culture première et culture seconde, que se sont développés les travaux, par exemple, de l'équipe Escol, avec Jean-Yves Rochex, etc., qui ont mis en avant, qui ont mis en évidence les relations entre les pratiques d'enseignement et les difficultés que peuvent rencontrer les élèves à entrer dans les apprentissages scolaires. Donc, dans tout ce contexte, on peut retenir deux notions centrales que je ne développerai pas longuement ici. Celle de cette notion de rapport au savoir, travaillée par Bernard Charlot, par exemple, qui insiste donc sur les relations et sur la question du sens que peuvent conférer les enseignants et ou les élèves aux situations dans lesquelles ces savoirs sont en jeu. Et puis donc l'autre notion que nous avons retenue pour notre travail également, qui est la notion de processus de secondarisation. Donc l'on peut définir rapidement à la suite des travaux de Bautier, Rochex, Guagou, etc., comme une transformation, une reconfiguration cognitive des individus, donc ici les élèves du primaire pour nos travaux, qui consiste à passer du niveau de la maîtrise pratique du monde et des savoirs à celui d'un rapport et d'une maîtrise symbolique au monde. Alors on pourrait dire, si on s'appuie un peu sur les travaux de Vygotsky, passer des concepts quotidiens, construits par l'expérience, etc., aux concepts scientifiques. Donc au cœur de la notion de secondarisation se trouve également la question du sens que les élèves attribuent aux tâches et aux objets de savoir auxquels ils sont confrontés dans les situations d'enseignement-apprentissage. Je reprendrai une citation d'Elisabeth Bautier et de Jean-Yves Rochex, « Activité conjointe » ne signifie pas signification partagée. Et j'essaierai, dans les exemples que je vous ai proposés, de vous montrer comment cela peut se passer dans la classe. Donc, pour en terminer sur les apports de la sociologie de l'éducation, on peut dire que la construction d'un rapport second au monde par les élèves est un enjeu important pour les enseignants. Alors, quel apport pour nos travaux de recherche, puisque là, j'ai simplement rappelé un certain nombre d'éléments. Je dirais qu'en didactique, ces éléments nous ont amenés à dépasser l'élève épistémique qui a longtemps été celui de la didactique, au moins, je dirais, en histoire géo. On a longtemps considéré que l'élève apprenait, il suffisait que l'enseignant enseigne en quelque sorte. Alors, dépasser l'élève épistémique, ça veut dire prendre en compte la diversité des élèves. Alors, on a mis l'accent sur les élèves, sur leur diversité, mais je dirais que dans le même temps, on a peut-être un petit peu délaissé, si je puis dire, le pôle enseignant. L'enseignant et son activité a longtemps été considéré comme, je dirais, là encore, un objet épistémique. On n'ouvrait pas la boîte noire de l'enseignant, on n'essayait pas d'aller comprendre son activité. D'où ma proposition de dire que pendant longtemps, l'enseignant a été un peu le point aveugle des recherches sur la question de la secondarisation. Je veux dire qu'on a beaucoup travaillé sur la relation pratique d'enseignement. On a beaucoup porté l'attention sur les élèves, peut-être moins sur l'enseignant, sur justement l'importance de son rapport à et au savoir, sur ce que j'ai essayé de formaliser sous l'idée de son activité didactique. Alors, je vous ai mis sur le dossier de document un petit schéma sur une façon de lire et de penser la situation d'enseignement-apprentissage. Alors, j'ai repris les notions de tâches et activités des travaux d'ergonomie, de psychologie du travail. Donc, la tâche, pour aller à l'essentiel, la tâche relève de ce qui est prescrit, et l'activité étant ce que l'on fait, ce que l'on ne fait pas, tout ce que l'on aimerait faire, etc., comme l'explique bien Yves Clos, pour faire face à cette tâche. Donc, l'enseignant, vous avez sur lui des prescriptions didactiques. Alors, il y a deux flèches parce qu'il y a des prescriptions qu'on pourrait appeler premières, officielles, les programmes, etc. Et puis, des prescriptions qu'on pourrait appeler médiées, qui sont tout ce qui passe par les manuels scolaires, les collègues, etc., qui définissent une tâche didactique. Confronté à cette tâche, on a l'activité didactique de l'enseignant, qui consiste, pour une part importante de cette activité didactique, à prescrire à son tour un certain nombre de tâches, que j'ai appelées tâches didactiques, aux élèves. Et donc au bas de ce schéma, l'activité didactique des élèves. Alors, pourquoi je vous ai présenté ce schéma? C'est pour dire que les problèmes de secondarisation, les problèmes d'identification des tâches, de leurs enjeux, elles peuvent se situer dans cette partie du schéma. C'est-à-dire que pour certains élèves, il y a une tâche, on fait, mais on n'en décode pas forcément tous les enjeux. C'est-à-dire qu'on peut en rester à la logique de « j'ai bien fait ce que l'enseignant me demande de faire » sans en comprendre le pourquoi. Là aussi, on le verra tout à l'heure avec quelques exemples. Alors, pour le dire autrement et en m'appuyant sur des travaux de didactique professionnelle de Pastré, en m'appuyant aussi sur Rabardel et sur la double dimension de l'activité qu'il propose, c'est-à-dire que pour ces auteurs, dans l'activité, il y a une dimension productive, c'est-à-dire qu'on veut transformer le réel, transformer les choses. Et puis en même temps, il y a une part de l'activité qu'on appelle constructive, c'est-à-dire qui transforme en retour le sujet. Et on peut penser que ce que Jean-Yves Rochex appelle des malentendus naissent dans ces moments-là, c'est-à-dire que à l'école, pour une partie des élèves, ce qui est important, c'est la tâche productive, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on me demande de faire, et ils ne mesurent pas toute la dimension constructive, c'est-à-dire transformation, activité intellectuelle que je dois accomplir pour réaliser cette tâche. Alors, quels sont les enseignements par rapport à notre problème d'aujourd'hui, c'est-à-dire la polyvalence et la construction d'un rapport second au monde par les élèves. Une première conséquence, dans le premier degré, compte tenu la spécificité du poste de travail des enseignants qui les confrontent à devoir enseigner de nombreuses disciplines, la question leur rapport au savoir, la question des savoirs qu'ils mobilisent, me semble être centrale. Elle suppose, question des savoirs et des rapports au savoir, que pour pouvoir faire construire par les élèves un rapport second au monde, l'enseignant se soit approprié, alors je reviendrai après sur le terme approprié, mais approprié l'ensemble des disciplines à enseigner. C'est-à-dire qu'ils en connaissent, au sens de Michel Develet, les matrices disciplinaires. Alors, il n'est pas dans mon propos de dire que l'enseignant du premier degré, au même titre que l'enseignant du second degré, soit tenu à avoir une maîtrise parfaite de toutes les disciplines, mais il me semble important qu'il en connaisse, en quelque sorte, les bases, les fondements. Deuxième élément à propos de cette connaissance des disciplines et de cette question du rapport au savoir des enseignants, on peut s'intéresser aux travaux aux États-Unis de Shulman qui a proposé cette notion de savoir pédagogique de la matière. C'est-à-dire que dans les savoirs de l'enseignant, pour Shulman, il doit y avoir une connaissance didactique, mais aussi une connaissance épistémique. C'est-à-dire que la connaissance didactique nécessite la connaissance épistémique de la matière à enseigner. Elle s'en nourrit, mais elle ne se réduit pas à celle-ci. Elle suppose cette connaissance didactique, une transformation complexe et raisonnée des savoirs à des fins d'instruction. Et ce qui me semble important dans ces travaux, c'est que ce concept de savoir pédagogique de la matière, c'est que l'enseignant, de par son travail, pour enseigner un contenu disciplinaire, doit effectuer en quelque sorte une transformation. Il doit passer d'une compréhension personnelle de la matière, ou des matières en l'occurrence ici, à une connaissance pour les autres, c'est-à-dire les élèves, en tenant compte de leur diversité. Alors, ces éléments sont, je dirais aussi, peut-être un enjeu pour les acteurs de la formation. Enjeu en formation professionnelle initiale, enjeu en formation professionnelle continue, c'est-à-dire comment aider le professionnel, d'une part à acquérir ce que Develet appelle ce savoir de haut niveau, ce regard distancié sur les disciplines, telle peut être une des questions posées à la formation professionnelle. Ce qui me semble également important d'avoir présent à l'esprit, toujours dans cette perspective de formation, c'est que le passage de l'étudiant au professionnel de l'enseignement ne va pas de soi. Et qu'il est important à ce moment-là d'aider au passage d'un rapport au savoir pour soi, qui est celui de l'étudiant, l'étudiant qu'il devienne enseignant à l'école primaire ou ailleurs est d'abord un étudiant qui réussit souvent encore en France un parcours spécialisé, donc il cherche à acquérir pour lui un certain nombre de savoirs, donc passer d'un rapport savoir pour soi à un rapport au savoir pour autrui, c'est-à-dire dans la perspective de l'enseignant. Donc voilà quelques éléments qui ont guidé notre travail de recherche.
Peut-être au point où on en est, avant qu'on rentre dans le point 3, quand je vous disais hier qu'il n'y avait pas une recherche, il n'y avait pas la recherche, je pense que ce que Thierry met en scène, c'est que déjà l'approche du GRPPE mêle au moins, vous avez vu, trois grandes entrées de recherche, trois disciplines, on peut dire, qui permettent de regarder ce qui se passe dans la classe. On a à la fois les didactiques, qu'est-ce qui se passe entre un savoir savant et un savoir qui doit être enseigné, la sociologie, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des différences sociales entre les individus qui font que le rapport qu'ils construisent avec ce savoir scolaire ou savant peut être socialement différencié. Et troisième grand élément, la question du métier, de la manière dont l'enseignant doit construire un rapport avec tout ça qui fasse que non seulement il ait lui-même un propre rapport au savoir, mais un rapport à ce qui est à enseigner. Donc, comme il l'a bien dit, donc un certain nombre de nos autres intervenants, parce que effectivement, il faut à la fois que vous vous connaissiez ces cadres théoriques et que vous voyez comment ils les articulent. Donc, c'est quelque chose d'exigeant. Dans ce que demain Molini développera, il développera toute la partie modification de la prescription sur le travail enseignant. Comment est-ce que la société contrôle, demande de plus en plus de choses. Jean-Yves Rochex retravaillera aussi toutes ces questions d'un point de vue sociologique. Mais avant qu'on avance, est-ce que dans les références qui ont été citées ou dans les termes, ou il y a des choses dans vos notes qui nécessiteraient un tout petit, toute petite précision avant qu'on descende à la fois dans la méthodologie puis dans les exemples concrets qui vont être bien sûr très parlants. Est-ce que vous avez donc sur les références, hein, vous avez entendu les noms des personnes citées. Est-ce que vous-même sur les concepts qui ont été manipulés, vous avez des demandes de, ou des compléments à faire de manière à ce que voilà, on avance en confiance et autant que possible qu'on soit pas trop déstabilisé. Est-ce qu'il y a des petites demandes de précision ou choses comme ça ou pas? On attend la fin. Pas d'inquiétude particulière. Bon, donc excusez-moi d'avoir interrompu le propos, mais c'est important qu'on se permette ça. C'est-à-dire, hein, si jamais il y a des moments où vous dites, bah attendez, là, il faudrait qu'on éclaircisse deux choses, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on continue en confiance.
Merci, Patrick. Donc, à partir de cette construction qui allie didactique, sociologie et analyse du travail, nous avons développé une méthodologie dont je vais vous dire maintenant quelques mots. Donc, le troisième point, analyser des situations de travail quotidiennes des enseignants. Donc, les recherches que nous menons sont des recherches empiriques à visée compréhensive. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus. Ce que nous cherchons à faire, c'est bien comprendre le travail quotidien d'enseignants. On dit parfois même d'enseignants ordinaires, c'est-à-dire dans le sens où ce sont des enseignants qui ne sont pas particulièrement engagés dans des groupes de réflexion, etc. Enseignants aussi qui, et là il faut souligner le fait qu'ils ont bien voulu participer à nos recherches, parce qu'il est extrêmement difficile de trouver des enseignants qui acceptent la présence de chercheurs dans leur classe avec une caméra qui enregistre, etc. Donc ça, c'est premier point. Deuxième point quant à la méthodologie, donc des enregistrements de séances, enregistrements vidéoscopiques, et ce qu'on appelle à la suite notamment des travaux d'Yves Clos, des entretiens en autoconfrontation simple. Alors vous avez peut-être entendu parler d'autoconfrontation, c'est-à-dire que on confronte le professionnel, ici l'enseignant, au film de la séance et on lui demande de commenter donc son travail. C'est-à-dire que c'est une activité sur l'activité. Alors il y a différentes modalités de mener l'autoconfrontation simple. Soit c'est le professionnel qui demande au chercheur d'arrêter à certains moments, soit le chercheur propose des épisodes. Donc là, bon, vous pourrez trouver dans la littérature un certain nombre de manières de mener cette autoconfrontation simple. Alors on utilise aussi l'autoconfrontation croisée lorsque ce n'est plus un dialogue entre le chercheur, le professionnel par rapport à la situation filmée, mais dans l'autoconfrontation croisée, on ajoute une tierce personne, donc le professionnel, un autre, un pair, et puis le chercheur. Donc l'arrière-plan théorique de l'autoconfrontation, ce sont les travaux d'Yves Clos. Alors, dans les autoconfrontations que nous avons menées, nous avons proposé à l'enseignant des moments que nous avions au préalable sélectionnés, d'un point de vue didactique, des points de vue des questions de recherche que nous posions, en offrant, je dirais, la possibilité à l'enseignant de choisir d'autres moments. Alors, ce qu'on a constaté, c'est que, c'est peut-être lié au hasard, mais les enseignants ont toujours préféré commenter les moments que nous avions choisis plutôt que de s'en lancer eux-mêmes dans le propre commentaire de la situation. Donc l'ensemble des données sont transcrites. Ça, c'est un exercice qui peut même être intéressant en formation, faire transcrire une séance et donc analyser en associant, comme Roland Guagou l'a bien montré, une approche extrinsèque, c'est-à-dire le point de vue du chercheur, le point de vue du didacticien, et une approche intrinsèque, c'est-à-dire partant du professionnel. Alors, nous avons notamment mené cette analyse de contenu à partir de grilles. On utilise aussi d'autres méthodes, mais pour l'intervention d'aujourd'hui, je voulais vous présenter la façon dont nous étions partis de la notion de processus de secondarisation, pardon, et comment nous l'avions opérationnalisé en dégageant un certain nombre de critères qui nous permettaient de dire si les pratiques favorisaient ou pas la construction de ce rapport second au monde. Alors, je ne vais pas vous lire ces 8 critères. Vous les avez, je pense, avec leur explicitation dans le dans le document qui vous a été remis. Donc, vous pourrez les parcourir tranquillement. Donc, sachez qu'on a donc à partir des scripts, procéder à des codages, c'est une analyse de contenu classique qui nous permettait de voir si on avait explicitation des enjeux ou pas, si l'ajustement didactique, on avait un surajustement ou un sous-ajustement, etc., etc. Et donc c'est muni de cette grille que nous avons travaillé à partir des scripts, des entretiens d'autoconfrontation et des scripts de séance. Alors, cette méthodologie, certes, nous a permis, je dirais comme c'est une des finalités de la recherche, de produire des connaissances, mais il me semble qu'elle peut aussi être un cadre qui trouve toute sa pertinence dans un dispositif de formation. On a beaucoup parlé, notamment dans les IUFM, d'analyse de pratique qui s'est faite selon des modalités diverses et variées. Il me semble que l'analyse de pratique peut gagner peut-être en efficacité, en pertinence aussi, en s'appuyant sur ce type de dispositif. L'enregistrement vidéoscopique en lui-même a des effets de formation. Alors, je ne les ai pas particulièrement quantifiés, travaillés, mais on peut penser que le simple fait d'être filmé oblige l'enseignant à mettre un peu à distance sa pratique. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais montrer? Comment est-ce que je vais le dire? Etc. Et pour appuyer mon propos, lorsque, après les enregistrements, j'ai pu discuter avec les enseignants en leur demandant comment ils avaient vécu cette situation, ils m'ont dit « je ne me vois plus tout à fait pareil », etc. Donc, il y a des effets de formation qui sont liés à la présence du chercheur et au fait que l'on filme. Alors, bien évidemment, vous savez aussi que la présence d'une personne dans la classe modifie ce qu'on enregistre, etc. Deuxième élément intéressant en formation, c'est le dispositif d'autoconfrontation. Alors, qu'elle soit simple ou croisée, mais vous offrez là aux professionnels une occasion de dialogue professionnel. Vous pouvez même, en vous appuyant sur ces autoconfrontations, sur les scripts, mettre en place ce que Yves Clos appelle des controverses professionnelles. hein, donc des moments d'échange, de débat sur les pratiques. Bref, je dirais que c'est un outil, alors mobilisable, certes avec un certain coût, pour l'analyse de pratiques au sein de collectifs de formation. Donc je voulais quand même insister sur cette dimension. Certes, ça a été développé dans le cadre d'une recherche, mais c'est aussi quelque chose que nous mobilisons dans des formations. Alors, à partir de ce cadre, muni de cette méthodologie, nous avons essayé d'avancer sur la compréhension de cette professionnalité des enseignants de l'école primaire. Donc, j'arrive au quatrième point de l'exposé. Alors, j'ai intitulé ce quatrième point « Un habillage disciplinaire de temps d'enseignement ». Deux éléments d'explication. À la différence du second degré, je pense que l'enseignant de l'école primaire est confronté déjà à un premier problème professionnel, celui de construire sa journée, ses moments, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une sonnerie qui lui dit maintenant 9h à 10h tu fais de la géo, après les élèves s'en vont, etc. Donc il doit construire des temps d'enseignement. Et cette idée d'habillage disciplinaire, parce que comme j'espère pouvoir vous le montrer par les exemples que j'ai choisis, ça ressemble à de la géographie, c'est une forme de géographie, mais peut-être que sur le fond, il y a des éléments qui sont peu ou moins présents. Voilà. Alors, premier résultat, quand on a travaillé sur tous ces scripts, sur lesquels je passerai rapidement, ce qui m'a surpris, c'est la prégnance, c'est le temps extrêmement important dans des séances qui est consacré à ce qu'on peut appeler la gestion de classe. Alors, la gestion de classe, pas seulement au sens de la discipline, mais tout ce qui, je pourrais dire, prépare les élèves à. Alors, à l'école primaire, on a un ensemble d'activités, on fait distribuer les cahiers. Alors, on a le responsable cahier qui va distribuer. On a donc, tout ça, ça prend énormément de temps. Des temps aussi sur la prise de parole, etc., etc. Bref. On peut décrire ces séances comme, alors j'ai qualifié ça d'une structure en archipel, juxtaposition de temps plus ou moins long consacré à la gestion de classe et de temps centré sur les apprentissages en jeu dans la séance. C'est-à-dire que j'avais mesuré, j'avais chronométré, si vous voulez, le temps où les régulations, les interventions de l'enseignant étaient au sens strict didactique, c'est-à-dire portées sur les savoirs, sur les savoirs en jeu, etc. Et puis, tout le temps où on était sur donner la parole, faire parler, demander le calme, faire distribuer les documents. Et on se rend compte que c'est toujours ce temps-là qui est le plus important dans une séance. Comme si la gestion de classe était devenu un élément qui s'impose dans la professionnalité des enseignants comme une finalité qui dépasserait la transmission-appropriation de savoir scolaire. Alors, quelques exemples de pratiques d'enseignement. Alors, là, vous pourrez suivre, parce que j'ai en partie mis le texte sur les diapos, mais je pense que c'est plus pratique de s'appuyer sur les supports qui ont été photocopiés. Alors, j'insiste bien sur le fait que ce sont des exemples, ce sont des possibles, des obstacles possibles, des malentendus possibles. Je ne vous dis pas que ce sont toujours ceux-là qu'on observe. Donc j'insiste bien sur ce point. Donc, un rituel possible, le recueil de représentations. Alors vous avez dans le document la façon dont un enseignant de CM2 débute sa séance. Donc je vais vous laisser le temps de vous approprier le... Je regarde ma montre parce que je ne voulais pas abuser Donc, vous lisez un petit peu cette façon d'entrer. Bon, vous pouvez réagir aussi hein, par rapport à ça. C'est la page 3. Oui, mais jusqu'où ? Bah, vous pouvez lire jusqu'à la réplique 13 et puis reprendre l'extrait de l'entretien d'autoconfrontation. Hein, page 3. Alors, M, le maître. Hein, E, S, quand vous savez, les élèves prennent tous la parole. Hein, donc non, c'est collectif. Et E, quand vous avez un seul élève. En italique, ce sont des éléments que j'ai ajoutés. Donc, vous avez là quelques minutes de script qui correspondent à cette façon donc d'entrer dans la séance. Hein, donc, vous l'avez compris, il s'agissait d'une séance sur l'Europe, et donc l'enseignant demande aux élèves tout ce qu'ils ont à dire ou tous les mots auxquels ils pensent quand il écrit le mot Europe. Alors, vous voyez dans le déroulé du script et que ben, on passe un petit peu par des éléments divers et variés. Alors, ce qu'il est important que vous sachiez, c'est que au bout de 15 minutes, l'enseignant enchaîne de suite sur ce qu'il a prévu de faire. C'est-à-dire que ces 15 minutes au cours desquels il a, comme on le dit souvent, recueilli les représentations des élèves, on ne voit plus à quoi elles servent. Hein, c'est-à-dire qu'après, on passe à autre chose. Ces mots qui étaient écrits au tableau sont effacés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de traces. Alors, l'extrait d'entretien d'autoconfrontation est, à mon avis, là, intéressant. Et c'est pour ça que je dis que ça peut devenir un rituel. Parce que, finalement, on se rend compte que la fonction que l'enseignant attribue à ce moment de classe n'est pas, comme on pourrait le penser, d'un travail à partir des représentations des élèves pour les faire rentrer dans un processus, etc., etc. Mais c'est une technique qu'il a trouvée pour accrocher. Il faut les motiver. Donc ça y est, on les a accrochés. Maintenant, c'est fini, on passe et c'est parti. D'où la proposition de dire, si on est dans cette perspective-là, ça peut devenir un rituel. Et quand on mène des observations de classe, notamment chez des enseignants débutants, on a souvent cela, moi j'ai pu le constater en géographie, c'est un peu un passage obligé, on fait un recueil, comme on dit, des représentations, donc soit on le fait oralement, soit on l'écrit, mais je dirais que ces représentations ne servent pas les apprentissages, puisqu'après on n'en fait plus rien. Donc c'est ça mon idée d'un rituel possible à partir de, entre guillemets, le recueil des représentations. Deuxième exemple qui va nous arrêter peut-être un peu plus longuement, c'est ce qu'on appelle là aussi, alors c'est peut-être du jargon de prof d'histoire géo, le cours dialogué. Donc en deux mots, je pense que vous connaissez le principe. Un jeu de questions-réponses à partir ou pas de documents. Donc ce cours dialogué, j'ai ajouté avec des ruptures, des dérives et des formes de confiscation. Alors je vais expliciter mon propos. Donc là encore, je vais vous demander, on va s'appuyer sur... alors c'est plus long, je vais vous donner peut-être 5 minutes pour que vous puissiez prendre l'extrait d'une séance sur les villes d'Europe. Donc, c'est une séance au cours de laquelle l'enseignante donc, se propose de travailler sur les villes d'Europe. Elle l'intitule comme ça. En fait, on comprend très vite qu'il s'agit de travailler sur les capitales. Et vous voyez déjà, elle annonce aux élèves les villes d'Europe et elle les fait travailler sur... sur les capitales. Et donc, l'enseignante a fait parler les élèves, là aussi, et à un moment de sa séance, vous voyez, on est à M317, donc on a déjà passé un petit peu de temps, elle demande aux élèves quelles sont les villes qu'ils aimeraient bien visiter, etc., et puis surtout d'en faire une comparaison. On est à l'oral. Et donc ça commence, M317, est-ce que Lisbonne ressemble un peu à Paris? Donc je vous laisse parcourir ces deux pages, page 4 et 5. Peut-être en discuter un petit peu entre vous. Hein, et puis, donc, vous aviez dans cet extrait, hein, j'ai mis à un certain moment 321, 323, donc j'ai supprimé quelques passages, hein, mais vous aviez quand même une certaine continuité. Donc, ce qui peut être intéressant hein, dans cette lecture, c'est essayer de vous demander ben, quel est l'objet, hein, sur quoi portent les échanges. Voilà, donc 5 minutes. Je peux reprendre ou vous voulez encore... Donc, quand on analyse ce genre, ce type hein, de script, bon, il y a une première caractéristique qui, du point de vue hein, de la possibilité de construire un rapport second au monde, interpelle, c'est le jeu, ce jeu rapide hein, de questions-réponses. Alors, rapide, vous avez du mal à le mesurer. Hein, là encore, j'ai pris un chronomètre. Et on constate hein, que dans ces moments-là, l'élève ou les élèves disposent en moyenne hein, d'une seconde et demie pour produire alors, ce qu'on ose appeler une réponse. Hein, c'est-à-dire qu'on a souvent des bribes, hein, ça débute et puis ben, l'enseignant s'appuie dessus. Donc dans ces conditions-là, hein, prendre de la distance, réfléchir, mettre en ordre... Hein, ben vous voyez que ça, c'est problématique. Donc, jeu rapide, question-réponse. On peut aussi constater, quand on analyse le fil hein, de cet extrait, que les tâches didactiques hein, qui sont proposées aux élèves vont constamment changer. Hein. C'est-à-dire que, je vous ai dit, au départ, l'enseignante donne comme tâche didactique de repérer les capitales des États européens. Vous voyez que au fur et à mesure qu'on avance dans sa séance, ça change, hein, puisque à un moment, hein, l'enseignante, bon, elle demande comment on pourrait différencier des villes, et puis il y a une nouvelle tâche hein, qui est introduite, celle de décrire le contenu du centre-ville. Hein, que trouve-t-on dans le centre-ville ? Et puis on avance et on arrive à un moment où je dirais, on aurait presque pu en rester là. Si vous prenez hein, l'échange 331, hein, donc le centre-ville avec son hôtel de ville, sa mairie, etc. Bien sûr, je suis d'accord, bien. Hein, et là, on pouvait dire, bah, ça y est, c'est bon, on a parlé du centre-ville, on revient à la tâche initialement annoncée. Or, on ne revient pas à la tâche initialement proposée. Il y a une nouvelle tâche qui arrive. L'enseignante, pour des éléments qu'elle expliquera dans l'entretien, et c'est là où c'est intéressant hein, de recueillir aussi le point de vue du professionnel, ben, à ce stade, on change encore et on oriente les élèves sur le thème, je dirais, de la croissance urbaine, hein, puisque vous voyez que on va essayer de voir hein, ensuite ben, pourquoi les villes, comme elles le disent, se sont agrandies. Donc, de nouveau, une phase d'échange qui va aboutir à la construction par l'enseignante d'un schéma hein, de cercle concentrique, alors qu'on peut trouver peut-être un peu simpliste, hein, mais qui... dans son esprit, hein, met en avant hein, des éléments d'organisation de l'espace urbain. Bon, vous voyez comment, en quelques minutes, hein, les élèves ont été confrontés à de multiples tâches hein, qui se sont enchâssées, qui se sont entremêlées, mais sans que jamais ils ne sachent bien quelle était hein, la plus importante, celle sur laquelle l'enseignant donnait, ou celle à laquelle, pardon, l'enseignant accordait une priorité. Alors, ce qui m'amène à dire que ces situations, je dois par moment trop m'approcher, je pense que, voilà. Ce qui m'amène à dire que ces situations de cours dialoguées, ben, ça suppose de l'enseignant une très grande capacité de contrôle. Hein. Or, l'analyse des scripts montre que ce contrôle, lui, est difficile. Hein. D'où ben, des digressions, hein, des dérives, des ruptures de ce qu'on pourrait appeler, hein, au sens des didacticiens des maths, des ruptures de contrat didactique, Hein, on change le contrat didactique en permanence. Autant d'éléments qui peuvent contribuer à créer ce que Jean-Yves Rochex et d'autres ont appelé une opacité. On ne sait plus très bien où on en est. Alors, ça, c'est, je dirais, du point de vue des élèves. Qu'est-ce qu'on me demande de faire? Quel est mon travail? Alors, du point de vue de l'enseignant, ce qui est peut-être paradoxal, c'est là aussi à la lecture des entretiens d'autoconfrontation, c'est qu'on se rend compte que cette situation de cours dialogué qu'on peut être amené à critiquer en tant que didacticien, c'est une situation qui, pour lui, est souvent très satisfaisante. Satisfaisante pourquoi ? Mais parce qu'elle lui permet de créer une dynamique de classe. Et lorsque j'ai demandé aux enseignants « ta séance, est-ce qu'elle a bien fonctionné ?» Ils ont répondu « oui ». Hein, bon. Mais quand on creuse un petit peu, qu'est-ce qui te fait dire qu'elle a bien fonctionné? La réponse que j'ai souvent obtenue, c'est « les élèves ont bien participé, ils ont été actifs ». Et là, le gros mot est lâché. Hein, les élèves ont été actifs, c'est super, ils ont levé la main, ils se sont bien investis, avec tout un tas de présupposés derrière, c'est que s'ils ont été actifs, ils ont dû bien évidemment apprendre quelque chose. Hein. Ce qui m'a marqué, c'est que rarement les enseignants m'ont dit bah oui, ça a marché parce que quand j'ai fait l'évaluation, etc., etc. Donc, c'est ce souci de rendre l'élève actif, de le faire participer à travers les situations cours dialoguées, ça donne une certaine satisfaction. Deuxième élément qui fait que cette situation satisfasse l'enseignant, c'est qu'elle lui permet d'avancer vers le but qu'il s'est fixé. Alors, vous allez me dire, le but, il est parfois pas très explicite, hein, mais qu'il veut, en gros, comme on le dit souvent familièrement, il voulait boucler, ils veulent boucler leur séance. Et ce cours dialogué permet à l'enseignant de s'appuyer sur ce que disent ou semblent dire les élèves pour dérouler son fil à lui. D'où mon idée qu'il y a dans ce type de dispositif une forme de confiscation de ce que disent les élèves, des difficultés qu'ils peuvent rencontrer, des problèmes, des incompréhensions. Parce que très vite, l'enseignant, mais non, ça, toi, ce n'est pas la bonne réponse et on va chercher la bonne réponse. Donc, confiscation aussi. Et là, il faudrait prendre plus de temps et analyser finement les textes. Confiscation au moment où l'enseignant reformule. Bien souvent, l'analyse des scripts montre que entre ce que l'élève tente de dire et ce que l'enseignant lui fait dire, c'est plus tout à fait la même chose. Ce qui, là encore, m'amène à parler d'une forme de confiscation. Confiscation, enfin, quand c'est un élève. Et ça devient « on » et « nous ». C'est-à-dire « ah ben oui, vous avez vu ce qu'il vient de dire. Donc, on a trouvé que... » Et donc, ce qui vient d'un élève s'impose ensuite à tous. On ne sait pas si les autres sont là, ont compris, ont suivi. Donc, il y a derrière tout ce déroulement du cours dialogué, tout un processus qui, à mon avis, conserve une logique d'enseignement qu'on peut qualifier de magistro-centré, c'est le maître qui pilote et qui fait pratiquement dire aux élèves ce qu'il a envie d'entendre. Autre exemple de pratiques qui peuvent là aussi poser problème du point de vue de la construction d'un rapport second au monde, c'est l'usage très fréquent dans les séances de géographie, de photographies paysagères. Donc vous avez là un exemple de photographie utilisée lors d'une séance que réalise un enseignant, là encore de CM2, sur l'agriculture française. Donc deux points seront mis en... J'insisterai sur deux points, c'est l'illusion du réel et cette volonté du concret. Alors, dans la mesure où le temps avance, hein, et puis, puisque je suis pris aussi par ce souci de boucler, donc vous avez hein, les extraits qui sont reproduits. J'ai repris là aussi hein, quelques éléments. Donc, consigne. Donc, on est dans un dispositif court dialogué, on regarde le document qui est à la page 93, on se dépêche, bon, etc. Et voilà hein, ce qui est important, c'est ici. Alors, vous avez bien regardé, qu'est-ce qu'on voit hein, sur cette photo? Et puis, on vous donne la parole à l'élève. Alors, premier élément hein, dans cette... l'introduction de cette photographie, hein, on est à un moment comme si l'enseignant souhaitait ouvrir une fenêtre sur la réalité du monde. Hein. On va ouvrir une fenêtre, on va inviter les élèves à regarder par cette fenêtre et voir le monde, hein, comme si c'était là, hein, comme si cette photo hein, nous donnait le monde. Ensuite, hein, on va avoir alors tout un ensemble de questions qui, progressivement, hein, vont s'écarter hein, de cette photographie. Donc l'enseignant hein, plante le décor et on va le décrire. Alors ce qui est intéressant, hein, là aussi, c'est, on peut relever ça dans la pratique, mais c'est ce que dit l'enseignant, de l'usage de cette image. Donc, il y a deux éléments que vous retrouverez hein, dans le document. Le premier élément, hein, c'est cette question hein, de la photographie qui serait plus simple que le texte. Et ça, c'est revenu, et ça revient, hein, à chaque fois que je peux faire une formation, ben oui, on prend des images parce qu'au moins, on n'a pas de problème. Alors, le « on n'a pas de problème », je pense qu'il faut le comprendre. On n'a pas de problème pour avoir une participation des élèves. Hein, parce que on peut souvent le constater, quand vous confrontez les élèves à une photographie, ils auront toujours quelque chose à dire. Vous les confrontez à un texte, c'est plus problématique. Donc, cette fausse hein, simplicité des images, puisque ici, l'enseignant fait comme si hein, c'était un fragment de la réalité, ignorant toute la construction hein, qu'il y a derrière cette image. Deuxième élément hein, qui me semble important dans cet extrait, c'est cette volonté de concret. La géographie, pour lui, et pas seulement, je pense, ben c'est on est dans le concret. Donc vous voyez que si on ancre constamment la pratique dans le concret, la pratique de la géographie dans le concret, il est difficile hein, ensuite ben d'aller vers la construction d'un rapport second. Donc voilà, hein, j'ai passé un peu plus rapidement sur cet exemple, mais hein, on pourrait les multiplier autour hein, de l'usage des photographies, hein, l'illusion du réel et cette question du en géographie, il faut qu'on soit concret. Troisième, et ce sera mon dernier exemple, hein, autour de la construction de malentendus hein, possibles autour des cartes. Donc, vous avez là aussi, hein, en raccourci sur la diapo, mais vous le retrouverez plus longuement présenté dans le support. Donc, on est dans la classe dont je m'étais appuyé tout à l'heure pour la question des représentations sur l'Europe. Hein, et à un moment, donc d'une séance qui était relativement longue, donc l'enseignant propose une nouvelle tâche à ses élèves. Donc, je vous laisse lire. Hein, les premières lignes, premier élément, il faut que ça soit un peu récréatif. Hein, on peut constater que bien souvent, pour les enseignants, hein, j'ai appelé ça le temps d'enseignement de la géographie, c'est un temps particulier que j'ai qualifié de temps mou. Hein, c'est-à-dire c'est un temps où on peut un peu se faire plaisir, un petit peu s'amuser hein, par rapport à des temps tels que ceux des mathématiques ou du français, où là, c'est, si je puis dire, c'est sérieux. Donc c'est un peu récréatif, ça me fait penser à cet élément. Donc on leur demande, on propose une carte sur laquelle les élèves doivent localiser, c'est très classique, les principaux États européens. Alors ce qui est intéressant, c'est la consigne qu'ils donnent. Donc vous allez faire un travail, etc. Vous avez une carte, vous devez colorier les 15 pays de l'Union européenne. Première chose. Bon, ensuite, c'est très, là aussi classique à l'école primaire, il y a les drapeaux. Il faut représenter et mettre les couleurs, colorier ces drapeaux. Alors ce qui est intéressant, si j'essaie d'aller au plus vite, c'est la distance entre le message adressé par l'enseignant à ses élèves, qui porte plus sur « on va faire, vous allez colorier », et l'enseignant va même dire un peu plus loin dans la séance « moi, ce qui est important, c'est que vous coloriez bien, il faut prendre les crayons de couleur et pas les feutres, etc. etc. » Donc il insiste sur le faire. Et quand on est ensuite en autoconfrontation, c'est la deuxième partie de la diapo, on voit bien que ce qu'il a valorisé aux yeux des élèves, le coloriage, etc., ce n'est pas vraiment son problème. Ce qui est important, c'était un objectif, qu'on pourrait dire un objectif de géographie. Donc entre le message adressé aux élèves et ce que lui, il attendait de cette situation, on est bien dans cette idée d'activité conjointe et de signification qui n'est probablement pas partagée entre lui et les élèves. Alors, pour aller vers la problématique du jour, c'est-à-dire la construction du rapport second, ces résultats, que nous disent-ils? Que peuvent-ils nous dire? Premier élément, c'est, me semble-t-il, un problème d'appropriation des disciplines. Alors, bon, j'ai appelé superficiel, mais c'est-à-dire que une partie des enseignants, par rapport à des disciplines peut-être comme la géographie, se sont appropriés les éléments de surface. C'est-à-dire qu'on va voir des cartes, on va voir des photographies, etc., etc. Donc ça donne à leur temps d'enseignement un habillage disciplinaire. C'est aussi peut-être parce qu'ils ont une appropriation superficielle, ça les conduit à faire de ces temps d'enseignement de la géographie ou même de l'histoire un petit peu des moments prétextes à construire ce qu'on pourrait appeler les compétences transversales, c'est-à-dire travailler en groupe, collaborer, se documenter, qui sont importantes, mais qui ne sont pas strictement disciplinaires. Deuxième enseignement, c'est l'importance, que je ne nie pas, de chercher à susciter la motivation, la mise en activité, obtenir une bonne participation. Autre élément, enseigner des savoirs factuels, plus que faire réfléchir, faire argumenter, etc. C'est comme si la polyvalence conduisait les enseignants à des pratiques qui viseraient à enseigner, si je puis dire, ce qui est le plus facilement enseignable. Alors, je m'explique rapidement. C'est-à-dire qu'il est peut-être plus aisé, quand on maîtrise plus ou moins bien les disciplines, de faire apprendre les fleuves en France, les capitales, etc., que d'amener les élèves progressivement à construire des raisonnements géographiques. C'est ça mon idée de ce qui est le plus facilement enseignable. Ce qui expliquerait également le fait que, quand on prend les grandes enquêtes qu'a pu mener, par exemple, François Audigier sur l'enseignement de l'histoire-géographie, il y a maintenant une bonne presque vingtaine d'années, mais on fasse pratiquement toujours les mêmes constats. C'est-à-dire qu'on enseigne, c'est un enseignement factuel, etc., etc. Autre enseignement, c'est la complexité des professionnalités enseignantes. Et donc, des résultats qui conduisent à faire l'hypothèse que de telles pratiques enseignantes, si elles sont récurrentes, parce que là j'ai pris des exemples, ce sont des petits éclairages, mais si elles sont récurrentes, elles sont alors peu favorable à la construction du rapport second au monde par les élèves. Je dirais que ces résultats font aussi que la question de la secondarisation doit avoir toute sa place dans la formation des enseignants, dans l'accompagnement que l'on peut faire. Alors, ces résultats sont aussi l'expression, la traduction, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'on essaie d'aller dans une logique de compréhension des difficultés exprimées par les enseignants. Alors, trois grandes familles de difficultés peuvent être présentées, qui nous permettent de comprendre les raisons pour lesquelles ces pratiques sont telles qu'on a pu les décrire. Des difficultés d'ordre identitaire. On trouve souvent dans les entretiens d'autoconfrontation les références à la difficulté à être ce qui est attendu. Donc, comme le dit cet enseignant, ce qui est gênant, ce n'est pas spécialement la géographie, la difficulté, c'est la fameuse polyvalence, donc source de tension entre identité et professionnalité. Des difficultés d'ordre épistémique, avoir les connaissances en... Il faut que l'on soit à peu près au fait dans tous les domaines. Voilà ce que dit un enseignant. Enfin, des difficultés d'ordre didactique, faire de la géographie. Comme le dit cette enseignante, la lecture de paysages, je trouve que c'est super, mais je pense qu'on ne sait pas la faire, donc on ne le fait pas. Alors, en conclusion, quatre points. Premier point. Ces pratiques qui peuvent donc conduire à des difficultés à faire entrer les élèves dans les apprentissages scolaires, il me semble qu'elles signifient combien au quotidien les enseignants cherchent aujourd'hui peut-être à tenir dans le métier. C'est-à-dire que l'on a des enseignants, lorsqu'on s'intéresse à leur travail au quotidien, qui agissent selon des logiques diverses. C'est sûr que d'un point de vue didactique, on pourrait dire mais c'est pas ça qu'il faut faire, mais donc des logiques diverses qui construisent un ensemble de pratiques, et j'insiste beaucoup là-dessus, qui fait sens pour eux. C'est-à-dire qu'ils construisent des compromis acceptables aux yeux de leurs élèves, aux yeux de l'institution, aux yeux des parents, aux yeux de leurs collègues. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Alors, ça installe peut-être des visions différentes du métier et une distance importante entre le maître idéal dont je parlais tout à l'heure, le maître qui, je dirais en quelque sorte, maîtrise tout, le maître efficace, celui de l'institution, celui aussi qui est promu dans l'opinion, et puis le maître ordinaire qui fait tout ce qu'il peut. Et cette distance pourrait être des éléments qui expliquent ces sortes de désillusions, si je peux dire, par rapport à l'école élémentaire et ses résultats. C'est-à-dire qu'il y a une distance importante entre ce qu'on dit que et ce qui s'y fait. Et puis, cette distance pourrait être aussi, cette fois du point de vue des enseignants, une cause ou une source d'un mal-être au travail autour d'une question, finalement, qu'est-ce que mon métier au sens où le définit Yves Clos, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce que je peux faire dans les conditions dans lesquelles on me demande de le faire? Deuxième point de cette conclusion, sous forme d'une interrogation, ne va-t-on pas aujourd'hui vers une forme de marginalisation des savoirs scolaires disciplinaires? Donc des enseignants qui, dans leur pratique, se situeraient, comme on pourrait le dire, en amont des apprentissages de savoir scolaire disciplinaire, motivation, participation des élèves, apprentissage transversaux, etc. Donc, dans une discipline comme la géographie, on pourrait dire que le processus de transmission, appropriation de savoir scolaire disciplinaire organise peu les pratiques d'enseignement, donc ce qui peut conduire à cette marginalisation, pardon, et ce sont là autant d'éléments qui pourraient faire obstacle à la construction par les élèves d'un rapport second au monde. Troisième élément, c'est mettre en question la polyvalence. À un moment où il est envisagé dans certains textes d'étendre, pas sous sa forme intégrale, mais d'étendre la polyvalence des enseignants au moins aux premières années du second degré. On peut trouver ça dans le rapport Pochard, on peut voir ça dans le rapport du HCE sur le collège. Il faut quand même se questionner. Cette polyvalence intégrale pour l'école primaire, qui paraît être naturelle, est-elle la seule option pour permettre aux élèves de construire un rapport second au monde ? Et il me semble qu'on peut penser que la mise en avant d'une polyvalence d'équipe, une polyvalence peut-être structurée autour de grands champs disciplinaires, comme ça se fait ailleurs, dans certains pays de l'OCDE, pourrait avoir un certain sens. Et elle se traduirait alors, du point de vue de l'enseignant, peut-être, par une responsabilité didactique, si je puis dire, partagée. Enfin, et je terminerai sur ce dernier point, c'est questionner la formation des enseignants. Je dirais que les enseignants du primaire, par rapport à cette problématique de la secondarisation, sont aux prises avec des tensions qu'ils peuvent peut-être aujourd'hui difficilement surmonter. Une formation disciplinaire qui est limitée au regard des exigences de cette polyvalence, des prescriptions officielles, de la demande sociale, des formations qui sont conçues encore fortement sur un modèle consécutif et qui semblent rendre difficile pour ces enseignants polyvalents, l'acquisition de la connaissance de ces disciplines, c'est-à-dire qu'on est plus dans une logique d'avoir des connaissances en que des connaissances sur. Et puis, je dirais aussi peut-être quelle place donner à tout ce qu'on pourrait appeler l'épistémologie des disciplines, quand souvent on est confronté à des futurs enseignants qui demandent beaucoup plus de pratiques que de théories. Voilà, je vous remercie.